Je partage avec vous ce matin le texte de la Genèse que vous connaissez sans doute très bien dans toutes les versions des Bibles que vous avez chez vous. Et ce matin, c'est dans la Genèse au chapitre 11, versets 1 à 9, que nous allons retrouver le fameux mythe de Babel. Et c'est dans la version d'André Chouraki que je lirai le texte pour faire ressortir certains éléments de ce texte très important. Et c'est toute la terre, une seule lèvre, d'unique parole. Et c'est à leur départ du levant, ils trouvent une faille en terre de Shinéar et y habitent. Ils disent l'homme à son compagnon, offrons, briquetons des briques, flambons-les à la flambée. La brique est pour eux pierre, le bitume est pour eux argile. Ils disent, offrons, bâtissons-nous une ville et une tour, sa tête au ciel. Faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur les faces de la terre. Yahvé descend pour voir la ville et la tour qu'avaient bâti les fils du Glébeu. Yahvé dit, voici un seul peuple, une seule lèvre pour tous. Cela, il commence à le faire. Maintenant, rien n'empêchera pour eux tout ce qu'ils préméditeront de faire. Offrons, et c'est Dieu qui parle, descendons, et mêlons là leurs lèvres, afin que l'homme n'entende plus la lèvre de son compagnon. Yahvé les disperse de là sur les faces de toute la terre. Les hommes cessent de bâtir la ville. Sur quoi Yahvé crie son nom. Babel, oui. Là, Yahvé a mêlé la lèvre de toute la terre, et de là, Yahvé les a dispersés sur les faces de toute la terre. Problème de communication. En effet, le mythe de la tour de Babel pose la question de la communication entre les hommes et celle de la multiplicité des langues. Et comment nous pouvons ou non nous comprendre les uns les autres, que nous soyons d'ailleurs dans la même langue ou que nous soyons dans des langues différentes. C'est parfois difficile de se comprendre. Là, je vous ai lu le texte dans la version d'André Chouraki, à laquelle vous n'êtes peut-être pas toujours habitué. Et tout d'un coup, il est difficile d'entendre l'esprit dans lequel le traducteur a écrit ce texte. Il faut prendre du temps, chercher, écouter. Ce texte qui nous parle de la compréhension du langage est lui-même construit sur une ambiguïté qui affecte certains termes employés dans le texte. Babel d'abord. En acadien, cela veut dire la porte vers Dieu, Bab-hel. Comme d'ailleurs Bab en arabe veut dire aussi porte et El en hébreu veut dire Dieu. Mais Babel semble avoir été transcrit en hébreu avec une racine qui veut dire brouillage, confusion. Ainsi, ces fameux fils du Glébeu, ces fameux fils d'Adam, Adam c'est Adama, la terre, c'est-à-dire l'homme rouge, l'homme de la terre, celui qui a été fait d'argile. Ces fils d'Adam semble avoir construit une tour qui leur ouvre le ciel. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent. Mais en même temps, Dieu va qualifier la ville et la tour qu'ils ont construite de Babel, confusion, brouillage. Un malentendu, donc, entre ces hommes qui, comme le souligne la traduction d'Henri Chouraki, offrent une ville et une tour afin de se faire un nom et de ne pas être dispersé sur toute la surface de la terre. Et de l'autre côté, Dieu, qui lui aussi fait à sa façon une offre, mais qui offre le mélange des langues, différentes toutes, et qui offre aussi leur dispersion à tous ces hommes sur toute la surface de la terre. Les hommes veulent se faire un nom, et de son côté, Dieu crie un nom, Babel, confusion. Le terme pour dire se faire un nom, le terme shem en hébreu qui veut dire nom, peut être compris dans le sens aussi de monument. La monumentalité de la tour évoque une image figée, quelque chose qui ne peut pas bouger, qui dure dans le temps mais qui reste même. Alors que le shem, le nom, qui a donné le schéma, la forme, permet le changement au sein même d'une forme qui, elle, demeure. Il est possible de trouver du nouveau dans un même schéma. Chacun de vous ici a un nom. Nom de baptême, nom de famille, peut-être surnom, peut-être nom d'usage. Avec ce nom, vous pouvez évoluer, changer, au sein même de cette identité symbolique qu'on vous a remise ou que vous avez choisie. Nul n'est figé à tout jamais dans un monument qu'il faudrait conserver. Et quand les hommes veulent se faire un nom, ils veulent le même nom pour tous, ces fameux fils d'Adam, niant ainsi l'identité particulière de chacun, sa singularité et peut-être sa liberté. Dans la tradition chrétienne, cette action mythique de Dieu de brouiller les langues a été très souvent interprétée comme une sanction à l'égard d'un peuple d'humains qui étaient eux-mêmes orgueilleux et voulaient accéder au ciel et à ses secrets, mettant en péril la toute-puissance de Dieu. La multiplicité des langues humaines serait donc, d'après cette tradition, une malédiction pour empêcher les hommes de s'unir et de devenir ainsi comme des dieux. On a là le même schéma interprétatif que dans le mythe du Jardin d'Éden, où on voit le fait de chasser Adam et Ève comme une punition. J'ai d'ailleurs cru cela en lisant le texte la première fois, et en me disant, mais en fait, Dieu ne veut pas que les hommes arrivent à se comprendre, et c'est une punition pour eux. Certains pères de l'Église ont vu dans la multiplicité des langues une image aussi du péché, la langue unique étant dans leur lecture l'harmonie dont les hommes seraient incapables, le un étant le bon et la multiplicité étant le mauvais. Mais l'interprétation de ces mythes d'origine consiste souvent en des moralisations après coup de récits qui sans doute n'ont pas eu pour but premier de dire la faute des hommes, mais plutôt de dire que tout ce qui a été voulu par Dieu dans un projet d'édification de l'humanité est là, dans ces mythes, et raconté pour que l'on comprenne mieux. La multiplicité des langues qui nous empêche de nous comprendre immédiatement, loin d'être une malédiction, est en fait une chance. Elle est la chance d'humaniser nos rapports avec l'autre. Et cela, on le comprend quand on voit que Dieu ne sanctionne pas les hommes, mais il prévient. Il voit jusqu'où cela va aller, et il les arrête à temps. Dans le mythe de Babel, la multiplicité des langues, comprise du point de vue des humains comme un handicap, est en effet très difficile à comprendre comme une chance. Imaginez un monde où tous les humains parleraient vraiment la même langue. Ne serait-ce pas le paradis? Nous aurions enfin des discussions, il n'y aurait pas du tout de quiproquos, de malentendus, d'empêchement de se comprendre en profondeur. Le mythe de Babel anéantit complètement cette illusion. Si les hommes avaient tous la même langue, ils finiraient par faire tous tout ce qu'ils préméditent de faire, comme le dit le texte. Et ce serait alors plus tragique encore que leur condition d'humain, car ils ne connaîtraient plus de limites. Ainsi, Dieu introduit de la limite dans le pouvoir des hommes. Or, cette limite dont nous parle le mythe de Babel, c'est l'autre, celui qui est en face de moi et à qui je parle, celui qui est mon prochain, celui qui me civilise, qui m'oblige à la remise en question, celui qui fait qu'il y a toujours un doute dans ma conviction d'avoir raison à moi seul, et même un doute sur la compréhension de ce que nous nous disons les uns aux autres. Babel n'est pas seulement une tour, mais aussi, et on l'oublie parfois, une ville. Babel est un lieu d'échange, un lieu où l'on doit être urbain, c'est-à-dire poli, courtois, regardant l'autre en faisant attention à lui. La ville, bâtie, oblige l'homme à vivre avec les autres sous leur regard, constamment en interaction et en devenir. Dans une ville, je ne fais pas ce que je veux, mais ce que les autres m'autorisent à faire, car nous nous limitons les uns les autres dans la vie sociale que nous vivons dans la même ville. Tout n'y est pas possible en même temps. Cette limite pourrait être vue comme une contrainte insupportable qui porte atteinte à la liberté de chacun. Pourtant, si chacun faisait ce qu'il voulait sans se soucier des autres, la vie serait très vite insupportable de violence, car chacun s'adonnerait à ce qu'il a envie de faire sans se soucier des conséquences pour son voisin. Et c'est ce qui arrive d'ailleurs quand vos voisins s'adonnent au tapage nocturne sans s'inquiéter du fait que le lendemain matin, il faudra que vous alliez travailler et que vous serez sans doute très fatigué. Ou bien le voyageur indélicat qui fait hurler sa musique dans un train pendant ne prenant pas en compte du tout votre tranquillité. Il est alors qualifié de grossier personnage et son comportement passe pour un incivisme. Une difficulté demeure dans cette histoire. Dieu ne laisse pas les hommes dans une même ville avec des langues différentes. Il fait encore autre chose que de donner une multiplicité de langues. Il les disperse sur la surface de la terre. Ils sont donc éloignés physiquement, habitants du monde entier. L'autre devient ainsi étranger. Celui qui ne parle pas la même langue et n'habite pas le même coin de terre. Le récit, voire le poème de Babel, montre deux points de vue opposés sur l'humanité. Quand les hommes vont offrir une construction gigantesque qu'ils ont construite eux-mêmes, tous semblables et tous engagés dans le même projet, Dieu, lui, offre des hommes tous différents, habitant la terre et ayant comme échelle le lieu de vie de la terre tout entière. D'un côté, comment ne pas penser à cette pensée unique quand on parle d'une seule langue pour tous les hommes, à la dictature ou au totalitarisme, la même idéologie pour tous? Comment ne pas penser à l'arrogance de ces rois qui faisaient mourir les esclaves sur des chantiers pharaoniques pour que tous l'adorent? Comment aussi ne pas se mettre à la place de ceux parmi les Hébreux exilés qui avaient vu la fameuse ziggourate, Cette tour carrée immense et qui fut à la fois imposante et disant la puissance des rois d'alors, mais qui fut aussi la risée des esprits libres du temps, parce qu'aucun roi ne parvint jamais à l'achever tant elle était orgueilleuse et grande. C'était au-dessus de leur force, en fait. Ils avaient mal envisagé cela. Une dynastie babylonienne entière n'a pas suffi à l'achever. De l'autre côté, comment ne pas penser au Dieu qui sépare pour abolir la confusion et faire advenir la compréhension dans tous les textes d'origine? Comment ne pas penser à cette parole qui, en coupant, en séparant, dans l'autre poème de création, fait surgir de la signification et empêche que tout soit mélangé? Dieu met de l'intelligence entre les hommes en rendant étrangement leur langue inintelligible pour l'autre, en les poussant à un art de l'autre, à une gymnastique de l'esprit, à une éthique de la rencontre. Il leur apprend leur condition de traducteur. Dieu met de l'écart entre les hommes pour qu'ils apprennent à aller les uns vers les autres et qu'ils apprennent à comprendre l'autre sans avoir l'a priori que tous sont mêmes. Dans sa conférence sur le paradigme de la traduction, Paul Ricoeur, le philosophe, parle de ces mythes fondateurs, tous construits selon le schéma d'un Dieu qui sépare pour rendre compréhensible, pour sortir du chaos. Et il propose de ne pas se contenter de voir dans le problème de la multiplicité des langues l'alternative traduisible ou intraduisible, mais plutôt d'y transposer l'alternative fidélité-trahison. Cette façon de poser le problème donne à la question du passage d'une langue à une autre une dimension éthique. Avec la langue de l'autre, je rencontre le monde de l'autre. Et le problème n'est plus d'arriver ou non à traduire ces mots exactement dans mon monde à moi, mais bien à être fidèle à ce qu'il est, à son point de vue à lui, à son monde, à ses références. La traduction ne répond plus alors à la question « qu'est-ce que je sais dans la langue de l'autre ?» mais plutôt « comment je m'adonne à l'art de traduire ?» Comment je passe toujours de l'un à l'autre sans jamais réussir à percer le secret complet de l'autre ? Comment j'entre dans le monde de l'autre et comment j'accueille l'autre dans mon monde ? Paul Ricoeur parle d'ailleurs d'hospitalité langagière. Accueillir l'autre avec sa part d'inconnu et ne pas chercher à l'enfermer dans mon propos, dans ma vision, mais rester fidèle à cette rencontre où il y a de l'inconnu, de l'insu, de l'altérité, de l'incompréhension, laquelle n'est plus une punition ou une sanction de Dieu, ou une valeur négative, mais une condition de véritable compréhension de l'autre dans le respect de ce qu'il est. Alors Babel, un problème de communication? Je dirais plutôt un problème d'humanité. Aujourd'hui, la question de savoir de quelle façon les hommes doivent communiquer se pose dans tous les secteurs de notre vie, avec parfois une tyrannie de la communication, comme si c'était elle qui nous déterminait, comme si en cessant de communiquer, nous allions cesser d'exister, disparaître en quelque sorte. Messageries électroniques, téléphones, nous avons maintenant à notre disposition des outils qui nous permettent de communiquer rapidement et surtout de communiquer avec d'autres que nous ne connaissons pas et que nous ne tenons pas toujours pour les destinataires de nos messages et de nos informations. Nous postons des messages sur la toile virtuelle de réseaux appelés sociaux, mais qui font parfois société à notre insu. Sans doute cela existait-il avec d'autres moyens par le passé. On a toujours retrouvé des graffitis partout où l'homme s'était installé, laissant ainsi un message à ceux qui voulaient bien le regarder. L'affiche aussi est un lieu complètement public où on ne sait pas qui est le destinataire et qui crée aussi des liens sociaux à l'insu de celui qui a fait l'affiche ou qui l'a collée. Le pamphlet, bien sûr, qui traverse les différentes communautés sans jamais dire exactement qui est son auteur parfois. Les libelles existent aussi depuis longtemps. Ce qui a peut-être changé, c'est cette manière de communiquer avec soi-même par le biais des outils techniques. Car c'est nous qui sommes à la manœuvre, du début à la fin. Par exemple, la création d'un selfie, quand vous vous prenez en photo vous-même avec votre téléphone portable, posté sur un réseau social est souvent adressé d'abord à soi-même, étrangement. Comme pour chercher qui est ce moi que je contemple comme un autre. C'est comme si l'on se mettait à distance de soi-même par le biais de l'image. Toutes les nouvelles technologies sont excellentes pour rapprocher des gens dispersés sur la surface de la Terre et ces inventions apportent beaucoup de belles possibilités de rapprochements humains. Je me suis découvert de la famille en Inde et j'en suis très heureuse. Nous avons eu un moment de pandémie terrible où il fallait que ces moyens techniques viennent à notre aide pour que nous ne soyons pas tous dispersés et tous dans l'ignorance de ce qui se passait pour les autres. Ce sont donc parfois des moyens très intéressants pour le rapprochement humain. Ce n'est pas l'utilisation des moyens que nous avons à notre disposition qui peut poser problème, mais plutôt l'uniformisation de ces moyens techniques et ce qu'ils peuvent engendrer de même, d'unique, d'unicité de la parole et de la façon de communiquer, si on ne s'en émancipe pas. Si nous communiquons tous de la même manière pour coller à un modèle sans être inventif, alors nous parlons une seule langue, celle du schéma selon lequel les réseaux sociaux ont été pensés par leurs créateurs, et nous sommes donc dans un carcan. Le mythe de Babel remet en perspective notre façon de communiquer et nous invite à accepter de laisser du jeu entre nos mondes pour pouvoir voir advenir de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, de nouveaux accueils de l'autre dans nos vies. Ne pas tout maîtriser est une bénédiction. Il faut donc être inventif avec tous les moyens que nous avons de communiquer ensemble. Le mythe de Babel nous présente un dieu qui provoque une Pentecôte azimutée au-delà des remparts de Jérusalem, sur toute la terre, confiant qu'il est de notre capacité à accueillir et à traduire la langue de l'autre. Il nous préfère divers. Il crée l'espace nécessaire à une vraie rencontre humaine entre nous, un espace qui permet un terrain où la rencontre puisse avoir lieu. Peut-être est-elle là, la Babel offerte par Dieu, la véritable porte vers Dieu. Elle est là où se produit l'hospitalité langagière qui nous humanise. Amen.